moi, l'amour, c'est qu'un passage. En fait, c'est un retour d'où on est venu.
C'est une sensation tellement merveilleuse que souvent...
C'était peut-être un des plus beaux moments.
J'ai la nostalgie, en fait, de cet instant.
Reste de mon existence.
On flotte, on est confiant.
J'ai pas de mots pour l'expliquer, mais... En fait, je suis sorti de mon corps.
Après la mort, il y a la vie.
Cette chose-là...
Et c'est merveilleux.
...a été pour moi un cadeau.
Club bizarre.
C'est
La vie, une aventure sur Terre vraiment bizarre, avec un point A, la naissance, et puis un point B, la mort. Entre les deux, du temps, assez en tout cas pour se poser des questions sur l'existence, la mort, la vie, son but, sur Dieu peut-être aussi, sur l'univers, sur l'extraordinaire. Un extraordinaire dont nous parle autant la religion que la science-fiction, qu'une certaine partie de la population. Je veux parler de ceux et celles qui vivent des expériences aux frontières de la mort. En Suisse, il n'y a pas de statistiques sur le nombre de personnes ayant vécu une near-death experience, mais elles se comptent sûrement en centaines, voire en milliers. La réalisatrice Denise Gillian a rencontré il y a de cela une dizaine d'années quatre expérienceurs de NDE, Sophie, Mireille, Nicolas et Claude, dans le but de tourner un documentaire sur ce sujet à la fois étonnant et bien mystérieux. Ce documentaire, c'est Aux frontières de la mort, disponible à présent en DVD. Dans quelques minutes, rencontre avec Denise Gillian et le monde de l'invisible pour parler dans ce second volet de la thématique « La vie après la vie » des NDE. Cette semaine, à la régie, celui dont une émission de radio sur le paranormal a changé la vie, Franck Pourpris. On ne vous demande pas de croire, simplement d'écouter. Bienvenue dans Club Bizarre.
I'm addicted to the thrill.
I'm ready.
It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who gonna run this town tonight. Who gonna run this town tonight?
Yeah.
We gonna run this town.
We are, yeah, I said it, we are. Rock Nation, pledge your allegiance, get your boutiques on, all black everything, black cars, all black everything, and our girls are blackbirds, riding with their diligence, I can't more in depth if you boys really real enough, this is not familiar, I'll explain later, but for now, let me get back to this paper, I'm a couple bands down, and I'm trying to get back, I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks. I'm talking 5,60, shot zeros, here the back to running circles round, niggas, now we squared up, hold up.
Life's a game, but it's not fair, yeah. I break the rules, so I don't care,
uh-huh.
So I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give a hell, only thing that's on my mind, is who gonna run this town tonight,
screaming, fuck the other side, they jealous. We got a banquet full of bras, they got a table full of fellas.
Yeah.
And they ain't spending no cake, they should throw their hand in, cause they ain't got no space.
Yeah.
My whole team got dough, so my banquet is looking like millionaires, bro.
Yeah.
Couleur 3.
Club Bizarre.
Et là, j'ai plongé dans l'eau. À l'époque, je ne savais pas nager, donc je me suis vue partir. Je me suis dit, tiens, c'est fini. Et j'ai vu le fond de l'eau, qui était très clair. J'ai vu les cailloux. Je voyais tout. Je me disais, tiens, en fait, c'est clair, c'est beau. Je me suis à peine débattue. Et je me suis sentie sortir de mon corps.
Dans le cadre de cette thématique sur les expériences aux frontières de la mort, Club Bizarre s'invite à Écublanc chez la réalisatrice Denise Gillian. Denise Gillian est née en Suisse en 1964. À l'âge de 16 ans, elle part vivre au Mexique. C'est à cette époque qu'elle se découvre une passion pour le cinéma. Une passion dont elle pourrait bien faire plus tard un métier. Mais avant d'entrer de plein pied dans la vie professionnelle, Denise Gillian fait à nouveau ses valises, direction une école de cinéma en Italie.
Alors j'ai fait ma formation de cinéaste à Florence, ouais, j'ai eu cette chance-là, l'école de sciences cinématographiques.
Ensuite, on avance un peu dans les années, on se retrouve en 1994 et puis là c'est le premier documentaire.
Ouais, alors c'était le tout premier documentaire à caractère personnel, donc une création qui s'appelle « Mon père, cet ange maudit » sur un détenu condamné à perpétuité qui a commencé à peindre en prison. Février. En route pour la prison de la colonie, où j'anime un atelier cinéma. Le but est d'amener des détenus à réaliser leur propre film documentaire. Le cinéma est l'art de toutes les contraintes. Temporelles, financières, dramaturgiques, relationnelles aussi. Amener un art de contrainte dans une prison relève peut-être du défi.
L'univers carcéral, vous en reparlez plus tard, en 2008. C'est vrai que c'est pour ça que vous êtes assez connu en Suisse romande pour ce documentaire-là qui s'appelle Article 43, qui a connu un beau succès.
Oui, alors Article 43, c'est une très très belle aventure dans la mesure où ça m'a permis de passer un an en prison, pas seulement à filmer des détenus, mais aussi à leur permettre à eux de faire des créations. J'animais un atelier cinéma. Et c'est vrai que c'était passionnant.
Je dirais pas grâce à la prison, parce qu'elle ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est la haine. Puis à la fin, le dépassement de la haine. Mais le dépassement de la haine dans le sens vraiment péjoratif du terme, c'est plus que la haine.
Alors entre 2008 et 1994, eh bien en 2002, c'est la sortie d'Aux frontières de la mort, un autre documentaire sur les NDE. Ce serait juste de dire que peut-être le point commun entre tous vos documentaires, c'est à chaque fois des parcours de vie étonnants, puis parfois un peu difficiles aussi.
Oui, le point commun, en tout cas dans mon travail, est de toujours m'intéresser à des personnes à qui on ne donne pas la parole habituellement. SDF, toxicomanes, chiffonniers Emmaüs, détenus. Et là, des expérienceurs de phénomènes paranormaux. Et pour moi, c'est très important que les gens puissent s'exprimer à la première personne, assument pleinement leur vécu et relatent d'une expérience.
Comment vous est venue l'idée, Denise, de faire un documentaire sur les NDE? C'est peut-être la question qu'on vous a déjà posée en conférence de presse. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous, un état modifié de conscience ou une NDE par le passé, en tout cas avant 2002, pour vous donner l'opportunité après de faire ce documentaire?
Alors non, je n'ai pas vécu moi-même de NDE. Par contre, depuis très petite, je m'interroge sur la mort. J'ai perdu pas mal de gens proches dans ma vie. Ça a peut-être mis en exergue ce questionnement-là. Et en fait, en 98, j'ai eu mon premier enfant. 2001, mon deuxième enfant. Et en parallèle, la question de la vie et de la mort est devenue d'autant plus sensible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce film à ce moment-là. Il y avait vraiment un besoin d'aller plus loin dans le questionnement sur « mais y a-t-il une survie? Est-ce qu'on survit d'une façon ou d'une autre à notre propre décès? Et du coup, est-ce qu'on se réincarne? Et y a-t-il une âme très ancienne dans l'esprit de mes enfants ?» Enfin, il y avait ça derrière, je pense.
Et je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait chaud, agréablement chaud, et c'était très lumineux, très agréable. J'étais vraiment dans un état de confiance totale. C'était le bonheur, peut-être le paradis, je sais pas. C'était plein de lumière, d'amour, de réconfort.
Que connaissiez-vous à l'époque sur les expériences de mort imminente, justement, 98, 99? Est-ce que vous aviez déjà lu, par exemple, les bouquins de Raymond Moody?
Oui, alors j'avais beaucoup exploré le sujet, d'autant plus que mon mari écrivait un livre à ce moment-là sur les expériences de mort imminente. Donc la maison était pleine de livres sur ce sujet. J'ai eu la chance également de pouvoir travailler avec Sylvie Détiola du centre Noésis, donc d'avoir accès à beaucoup de témoignages qu'elle avait recueillis, d'entendre vraiment cette parole à la première personne. Mais c'était un savoir purement théorique, dans la mesure où je n'avais pas dans mon entourage des gens qui avaient vécu de NDE. Donc j'ai été en chercher pour pouvoir réaliser le film. Donc dans ce cadre-là, c'était intéressant de les rencontrer en chair et en os et de pouvoir aller plus loin dans le questionnement que ce que j'avais pu apprendre dans un cadre littéraire.
Vous vous souvenez, même si c'est il y a plus d'une dizaine d'années, dans quel état vous étiez à l'époque? Vous avez dit, bon, je vais faire ce documentaire, par où je commence, comment je vais me lancer dans un sujet aussi vaste, aussi complexe?
Ce qui avait été difficile, c'était de faire un choix clair entre est-ce que je ne donne la parole qu'à des personnes qui ont fait l'expérience d'une NDE, ou bien est-ce qu'on ouvre aux scientifiques? Parce qu'évidemment, comme documentariste, on a toujours la tentation aussi de la théorie, de l'explication scientifique ou sociale qui va avec. Donc ça, je dirais, c'était la principale difficulté, c'était d'épurer, et finalement dans le film restent des témoignages à la première personne d'expérienceurs et quasiment pas d'analyse scientifique. Alors du coup le film est assez émotionnel, on est très très proche de l'humain, mais ça c'est un choix qui du coup est difficile à vendre aussi parce que c'est pas ce qu'on fait habituellement à la télévision, dans les magazines.
Et c'est très dommage parce que c'est souvent ce langage qui heurte les scientifiques. Quand ils entendent des mots comme ange, être de lumière ou paysage fabuleux, ils se bloquent, ils se disent non, là on peut pas y croire.
J'ai l'impression qu'on peut classer les documentaires sur les expériences de mort imminente en deux parties, soit les documentaires très scientifiques, très pragmatiques, soit les documentaires qui vont aller plutôt vers les êtres de lumière, parler de spiritualité.
Ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir quel impact la NDE pouvait avoir dans la vie des gens qui l'avaient expérimenté. Une des conséquences, c'est que ça modifie très en profondeur les valeurs des personnes qui frôlent la mort et qui vivent une NDE, et ils acquièrent des valeurs beaucoup plus humanistes, profondes, ils perdent très très fort l'envie de compétition ou le côté matérialiste qu'ils pouvaient avoir. Donc ça, c'est une espèce de constante qu'on retrouve chez tous les expérienceurs et que je voulais mettre en exergue. Je me disais, si j'arrive à montrer ça, le film a aussi valeur d'exemple par rapport à un idéal de mode de vie, je dirais. Alors, c'était plus ça mon choix que de choisir entre science et spiritualité.
Et j'ai réussi à m'accepter, à me tolérer tel que j'avais été. Là où je m'ai emmené, après encore ailleurs, où j'ai vu ma vie que je ne connaissais pas, en fait, c'était... Là, j'ai pris conscience que c'était ma vie future, quoi. Si j'étais sur Terre, j'aurais vécu ça, quoi. Et à ce moment-là, j'ai décidé, en fait, j'avais vraiment une mission à accomplir sur Terre et il fallait que je la fasse, quoi. Donc j'ai décidé de revenir.
Bisous. It's like the old man said, we're dead in the water.
simple act of faith. A simple act of faith. A simple act of faith. A celebration now. The color and the cream. The cancer and the sea. The crackles on the mind.
J'étais très étonnée de constater qu'en fait en Suisse, rien n'existait pour les NDE. Et il y a environ 3 ans, j'ai eu l'idée de créer Noesis, qui a donc pour but d'apporter une écoute aux témoins et de développer la recherche et l'information en Suisse romande. Parce que ça me permettait en fait de concilier autant l'aspect scientifique que les contacts humains.
C'est un fait, peu de réalisateurs francophones ont osé s'aventurer sur le terrain glissant des expériences de mort imminente. Un sujet qui, encore aujourd'hui, laisse beaucoup de personnes perplexes, voire dubitatives. En Suisse romande, c'est Denise Gillian qui a pris ce sujet très au sérieux en 2002 en réalisant le documentaire de 52 minutes diffusé à cette époque dans l'émission Temps présent. Son nom ? Aux frontières de la mort.
Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, les premières paroles qui me sont arrivées, c'était quand même merde, ça recommence.
Denise Gillian revient pour nous sur les préparatifs de son film et le casting des témoins.
Alors c'est toujours étonnant les parcours des films parce que y a un bout où on lance, hein, on met de l'énergie à disposition pour que les choses se passent, mais à un moment donné les choses arrivent à nous presque toutes seules. Donc par exemple Claude Thiesch, hein, qui est un des témoins du film, je suis allée le voir parce qu'il est peintre et j'avais besoin d'un peintre pour animer un atelier de peinture tout à fait dans un autre cadre. Et on a discuté de peinture pendant 2 heures et j'étais sur le pas de porte en train de le quitter et il me dit, je sais pas pourquoi et lui non plus, oui au fond je vous ai pas dit mais j'ai fait une NDE et c'était en plein pendant que je faisais mes recherches. Donc voilà, il y a eu quelques cadeaux comme ça. Et sinon je suis passée par Noesis, justement Sylvie Détiola, qui elle avait déjà recueilli les témoignages de Mireille et Nicolas, qui sont deux des protagonistes du film. Donc je les ai écoutés, rencontrés bien évidemment. Et puis sinon j'en ai vu plein d'autres. Puis ma foi, le choix est toujours très difficile, hein, parce qu'il faut que les gens à la fois aient plaisir à témoigner, que ça prenne sens pour eux, et puis qu'ils soient à l'aise devant la caméra, qu'ils soient OK avec ça.
À ce moment-là, j'ai retrouvé des sensations terrestres et j'ai retrouvé mon corps qui était là, toujours inanimé. Mais j'avais envie de le retrouver, j'ai replongé dedans jusqu'à faire mon premier souffle, comme à la naissance.
Dans votre documentaire, Denise, on ne trouve pas de témoignage sur une personne ayant vécu une expérience dite négative. Est-ce que vous aviez quand même pensé à un moment inclure un témoignage sur ce sujet ?
Tout à fait, oui. Mais ensuite, je me suis posé la question statistique. Je me suis dit, dans un film d'une heure, je peux mettre 3 à 4 témoignages. Sur 3 à 4 témoignages, ce serait faux d'en mettre plus d'un qui soit négatif. Or, 1 sur 4, ça fait 1/4. Dans les statistiques auxquelles j'ai pu avoir accès, on est de l'ordre de 1 sur 10 000 cas négatifs, NDE négatifs. Donc, je trouvais que c'était donner trop d'importance et peut-être induire la peur chez les gens, alors que ça n'a franchement pas lieu d'être, étant donné que c'est des expériences qui sont tellement minoritaires. Alors bien sûr, j'ai conscience que ça existe et qu'il ne faut pas cacher les choses, mais c'est vraiment très minoritaire. La plupart des gens le vivent bien.
Alors, tu nous racontes ce qui s'est passé.
J'ai du mal à trouver les mots. J'en sais rien. C'est comme une paranoïa, mais sans la peur. On se sent observé. Mais c'est sûrement parce que je savais que vous étiez en train de veiller sur moi.
Qui d'autre aurait pu t'observer ?
Les morts.
Dans votre documentaire sur l'NDE, on découvre des parcours de vie étonnants, parfois très durs. Moi, je repense au témoignage de Mireille Desclou, c'est comme ça qu'elle s'appelle ?
Oui, c'est ça, c'est son nom, oui.
Elle a vécu 3 NDE, et c'est dur dans ce documentaire, c'est presque, j'imagine, choquant, et peut-être qu'on vous l'a dit, de voir cette femme qui est devant ses enfants, devant sa famille, et qui dit « Moi, j'ai vécu 3 NDE, je suis passé de l'autre côté, j'ai goûté à l'amour infini, j'ai goûté à la lumière, et j'aimerais y retourner. »
Oui, effectivement. C'est, enfin, à la fois, c'est dur et courageux. Hein, parce qu'il y a peu de mères qui diraient devant son enfant, oui, je préférerais être morte que vivante.
Elle assume plutôt que de mentir.
Absolument, elle assume et elle a une raison de le dire aussi, c'est que vraiment il y a une immense souffrance physique chez elle au moment où on tourne le film, de par ses maladies. Donc je pense que ses enfants l'entendent de cette façon-là. C'est plus pour échapper à une souffrance que pour vivre un paradis perdu. C'est en tout cas comme ça que moi je l'ai entendu. Cela dit, Mireille actuellement va très bien.
Et si vous aviez autant envie d'y rester, qu'est-ce qui vous a fait revenir ?
Parce que dans le tunnel, une voix m'a dit que je devais revenir sur Terre pour m'occuper de mes enfants, que j'aurais le droit de revenir quand mes enfants seraient grands.
Et ça, c'est pour bientôt ?
Oui, je le souhaite du fond du cœur parce que la vie ici est devenue très difficile à vivre parce que pour moi, c'est un continuel déchirement entre la vie de l'autre côté et la vie ici-bas.
Aux dernières nouvelles, qui sont indirectes, mais quand même que je considère comme fiables, elle est devenue médium. Et elle fait des tournées de médiumnité en Europe, où elle, très très souvent, elle incarne le prêtre, le Padre Pio. Et je pense qu'à un moment donné, ben, elle a réussi à saisir de cette transformation profonde, de ses valeurs, de son psychisme, qui finalement viennent de la force issue de sa NDE, de sa dernière NDE. Et elle a rebondi là-dessus.
Ça, c'est aussi un dénominateur commun des NDE, c'est qu'après l'expérience, souvent, on change complètement de vie.
Alors, avec les autres, le changement est moins radical, dans la mesure où le peintre, Claude Tiech, a continué à faire de la peinture. Et, par contre, il y a eu aussi un changement d'importance, c'est qu'à partir du moment où il a frôlé la mort, il a eu envie de donner la vie, ça veut dire qu'il est devenu père, l'année qui a suivi. Et lui, il attribue aussi à cette expérience de mort imminente. Et c'est quelqu'un qui a toujours vécu proche de ses valeurs, donc le changement était moins visible, peut-être. Ensuite, chez Nicolas, c'était plus douloureux parce qu'il est revenu avec le sentiment d'avoir une mission à accomplir, un message à transmettre. Or, c'est pas facile dans cette société d'être entendu, déjà, et encore moins quand on souhaite parler de spiritualité. C'est pas tellement dans l'air du temps, ça l'est plus maintenant, mais lui a vécu sa NDE il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc pour lui, c'était très douloureux et je crois que ça le reste. Je pense qu'il est encore en train de chercher son chemin. Je l'ai vu il y a 3 ans de ça et c'était encore le cas. Et Sophie chante toujours, elle va de mieux en mieux, voilà, c'est ce que je dirais.
Et c'était absolument magnifique.
Chut, j'étais dans un jardin.
Et il y avait ce tunnel et cette lumière, et il y avait cette sorte de guide et aussi un char et de la musique.
Terry, je crois qu'il faut réduire tes doses de médicaments.
Repérage.
something you can synthesize, and it ain't something you can buy. Ain't got nothing to do with wrong and right, got everything to do with time.
Votre femme dit que pas mal de choses ont changé. Vous avez, vous, observé beaucoup de changements chez elle ?
J'ai observé des changements, effectivement. Déjà, simplement, le pendule. Avant, je m'intéressais un peu aux cartes et à tout cela, et elle, pas du tout. Et bien maintenant, elle est venue très forte avec le pendule.
Au micro de ce club bizarre, Denise Gillion, la réalisatrice du documentaire coproduit par la TSR « Aux frontières de la mort ». Un documentaire qui a réuni en 2002 242 000 téléspectateurs, des téléspectateurs qui ont pu découvrir quatre parcours de vie très différents. Mais avec un point commun essentiel, une expérience de mort imminente. Il y a Claude qui est peintre, il y a Sophie qui est cantatrice, il y a aussi Nicolas monteur en tableau électrique, et puis il y a Mireille. Mireille, une mère de famille souffrant de plusieurs maladies incurables.
Et sa personnalité a-t-elle changé également ?
Sa personnalité aussi, on est beaucoup plus proche qu'avant. Dans le sens qu'on n'a plus besoin de se causer ou de se dire des choses pour se comprendre.
Ouais, et puis il y a aussi beaucoup plus, elle vit plus au jour le jour, elle a moins des besoins matériels, de sentir qu'il y a quelque chose qui suit derrière.
Chose intéressante dans ce documentaire, c'est qu'une place est faite dans les témoignages à la famille et aux proches de Mireille. La réalisatrice nous explique pourquoi la présence de l'entourage des expérienceurs joue un rôle essentiel dans son film.
Alors pour moi, c'était très important de donner la parole à l'entourage aussi, ou alors de comprendre pourquoi l'entourage ne voulait pas parler, parce que je pense que l'utilité de ce type de documentaire, c'est aussi de faire tomber des tabous. Et il y a une grande souffrance chez les gens qui vivent des phénomènes paranormaux, parce qu'on les traite volontiers de fous. Hein, ils sont vraiment souvent mal vus. Donc c'était fondamental pour moi de montrer la difficulté qu'ils ont eue à parler à leur entourage, comment leur entourage finalement a fini par accepter la chose ou pas. Et ça faisait vraiment partie de ma démarche. Quoi, de mon point de vue, il faut absolument pouvoir entendre les gens là où ils sont sans juger. Que ce soit des phénomènes paranormaux ou que ce soit autre chose, il n'y a aucune raison qu'on rejette quelqu'un parce qu'il vit une expérience particulière. Donc voilà, c'était aussi une des missions que je donnais au film.
Il m'a fallu 2 ans pour pouvoir en parler à ma sœur. Et puis, je n'avais pas les mots pour l'exprimer. Je me sentais un peu, on va dire ça, tombé d'une autre planète, quoi. Parce que c'est une expérience qui paraît un peu folle, disons, et je ne l'avais pas vraiment intégré, donc... J'avais pas les mots pour l'exprimer, beaucoup trop de doutes par rapport à cette expérience et de pouvoir l'intégrer au fond de moi. Quoi.
Vous avez trouvé, Denise, des dénominateurs communs à tous ces témoignages. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent ?
Énormément, mais je pense que je vais dire des choses très bateaux. Ce qui revient toujours, c'est la sensation de traverser un tunnel, d'arriver dans une lumière faite d'amour et de plénitude, de rencontrer ensuite des êtres de lumière qui peuvent être identifiés ou non comme étant des membres défunts de la famille ou des anges, où chacun ensuite y met les mots qu'il peut et que sa culture lui permet de mettre. Et puis ensuite le retour très très dur, très abrupt dans le corps, soit parce que la personne entend l'ordre de revenir à sa vie, soit parce qu'elle prend conscience qu'elle a encore quelque chose à faire avec ce corps-là, dans cette vie-là. Ça, je dirais, c'est un peu des constantes dans ce qu'on peut entendre comme témoignage. Et puis après, il y a la difficulté de se remettre dans son quotidien, de réintégrer un quotidien, finalement, qui leur semble très banal après avoir vécu quelque chose d'aussi extraordinaire. centenaire. Ça, je dirais, on le retrouve dans à peu près tous les témoignages.
D'accord, mais comment expliques-tu que le monde entier semble avoir la même vision de la mort? Des peuples opposés par la culture et par la religion ont tous vu les mêmes choses dans le même ordre.
Mais j'en sais rien, ça peut venir d'une réaction chimique ou d'une hormone libérée par le cerveau juste avant la mort de l'esprit pour nous faire passer le cap.
Non, tu délires.
On a vraiment l'impression qu'il y a le pire et le meilleur dans la même expérience, en fait.
Mais je pense que toute expérience aussi radicale que celle-ci contient par essence le bien et le mal, le pire et le meilleur. C'est comme ça que je vois la chose, moi.
Dans la première partie de cette émission sur les expériences de mort imminentes, nous avons interviewé Sonia Barcala, qui a fait un documentaire qui est sorti l'année passée, qui s'appelle Faux départ, dans lequel elle a mis en lien, en tout cas essayé de trouver des liens entre la physique quantique et les expériences de mort imminente. Je pensais que c'était une idée tout à fait originale, mais je vois dans les bonus de votre DVD qu'une autre personne parle aussi de physique quantique et d'expériences de mort imminente.
Oui, alors moi je suis complètement fascinée par la physique quantique. C'était une des grosses découvertes en fait en explorant ce sujet. Et parce que je crois qu'au niveau scientifique, c'est la seule façon d'expliquer en fait les voyages hors du corps, ou si on pense à la médiumnité ou à la voyance, pourquoi est-ce que certaines personnes ont accès au passé, au présent et au futur de quelqu'un simultanément? Et les physiciens quantiques l'expliquent en fait par ces fameuses particules qui voyageraient au-delà de la vitesse de la lumière, les tachyons. En fait, à partir du moment où on dépasserait la vitesse de la lumière, on tombe dans un univers où le temps n'est plus linéaire. Donc les médiums, ou notre esprit après la mort, pourraient se balader dans cet univers-là et du coup avoir accès à une espèce de bibliothèque universelle et intemporelle d'informations. Et ça, c'est de la physique, ça veut dire que c'est des mathématiques. Donc c'est absolument extraordinaire, je trouve, pour le cérébral, quoi, de mettre en lien des mathématiques avec un univers qui semble être presque de la science-fiction. Et pas mal de scientifiques peuvent en parler merveilleusement bien.
Dans l'au-delà, si vous voulez l'appeler comme ça, moi je dirais que c'est un voyage dans une autre dimension, dont les propriétés nous sont inconnues, qui ressemble beaucoup à la dimension calculée par les physiciens quantiques. Il y a une vraie similitude là. Je suis convaincue que la conscience de la personne mourante se déplace dans une autre dimension, et que, afin qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive, il y ait une mise en scène par des images familières de quelque chose de totalement incompréhensible.
Avec le recul, Denise, vous avez l'impression, vous, que les NDE, ça touche n'importe qui, n'importe quand, ou que cela s'inscrit peut-être après réflexion, après ce documentaire et puis toutes ces années écoulées, dans un parcours de vie avec peut-être une logique tout compte fait?
Je sais pas, je l'ai pas trouvé la logique. La seule chose que j'ai pu observer dans tous les témoignages recueillis, c'est qu'il y a au moment de la mort, et notamment dans les accidents violents de voiture ou de montagne, il y a quelque chose de nous, soit qui se cramponne à la vie et qui la refuse, auquel cas c'est difficile. Et vous parlez de NDE négatives tout à l'heure, les NDE négatives surviennent surtout dans ces cas-là quand la personne n'arrive pas à lâcher. Et il y a un moment de lâcher prise où on s'abandonne à l'événement, à ce qu'il se passe, en toute confiance. Et là, la NDE semble être toujours positive. Alors, est-ce que c'est le fait d'accepter, de lâcher prise, qui fait qu'on s'en souvient après et qu'on la vit pleinement? Je ne sais pas.
Le plus grand changement, ça a été quand je me suis retrouvé aux soins intensifs après deux jours où ma conscience revenait. Et que là, j'ai vraiment lâché prise pour me dire, OK, je fais. Nous faisons avec mon ami de l'époque un enfant. Et ça, ça a été très, 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 très fort en moi. Et cet enfant est arrivé pratiquement 9 mois après la NDE.
Give me somewhere.
between love and lust, fat asses and war, desire, satisfaction and just cause. I used to react, now it just pours. Laws ain't what govern us. I ain't your lover, just another you took to discover lust. They would have scratched up the beam, but between you and me, I'm lost in the crush of that good skin and bad things we bound to regret. And I ain't said nothing yet, since we abandoned hope for the truth. She left the snake getting alone with our stupid shit. Now my stupid shit seems like stupid shit.
Give me somewhere I can go.
When I talk about culture, it ain't about arse and the tits. Video clips and bad magazines. I'm questioning the kind of man I gotta be. And you're questioning the kind of man I got in me. I think you know since the first day you walked out. Screaming, baby, what's all this about? It's the art and the kiss on the lips and the back of my brain. I ain't gonna change the theme or a yard of it's raw. It's just party on. Get them things out of Mardi Gras. Come on.
Certains vont jusqu'à comparer leur NDE à une psychanalyse accélérée parce qu'ils auraient pu comprendre au moment de l'expérience ou prendre conscience d'un traumatisme ancien. Donc on peut dire qu'en fait ils utilisent des mots très forts pour rendre compte de changements qu'on peut difficilement attribuer au seul fait d'avoir frôlé la mort.
C'est en 2002 que la réalisatrice romande Denise Gillian décide avec beaucoup de courage et de ténacité de s'attaquer dans un documentaire de 52 minutes au mystère de la vie après la mort en donnant la parole à quatre expérienceurs. Ces témoignages proposent de nouvelles perspectives sur notre existence ici-bas, sur le but de la vie, des perspectives qui donnent parfois le vertige. J'ai demandé à Denise quel était à l'époque de la sortie de son film son point de vue sur les NDE et si il avait changé depuis. Denise Gillian.
Oui, mon point de vue a évolué. Ben, ça fait presque 10 ans hein, de ça. Donc évidemment, mon point de vue a évolué. Je dirais, j'ai gagné en confiance sur une survie de l'âme après la mort. Voilà, je suis en train de préparer un film sur la médiumnité. Donc je suis allée plus loin dans l'exploration de ce phénomène. Et autant je pouvais avoir encore des vieux restes de scepticisme il y a 10 ans, autant là, je dois dire que de plus en plus, et de nouveau au vu de ce que j'observe, non pas selon une croyance que je pourrais avoir, mais au vu des observations que je fais à travers mon travail, je tente à penser qu'effectivement nous survivons à notre mort.
C'est trop irréel.
Irréel. Nous avons exploré l'au-delà et nous en avons rapporté nos remords, nos péchés. Et ils nous en veulent.
Votre documentaire, est-ce qu'il a permis de faire avancer le débat, progresser les mentalités sur ce sujet un peu délicat, des expériences de mort imminente? Vous avez eu des retours négatifs, des retours positifs?
Alors, c'est très difficile de vous répondre parce qu'on n'a pas forcément des retours en tant que réalisateur. Hein. On lance un film, on lance un produit sur le marché qui nous échappe très largement. Alors, bien sûr, j'ai des retours, des mails, des lettres, etc., quelques témoignages, mais finalement, qui sont moindres. Et les gens qui se manifestent sont des gens pour qui ça change la vie d'une façon positive. Les gens qui réagiraient mal à ça, je peux pas vous répondre, je sais pas, parce que j'ai pas de retour négatif, moi. Et je pense que ce type de film fait de toute façon avancer les mentalités dans la mesure où il libère une parole. À partir du moment où des gens ont le courage de parler de quelque chose de difficile, de particulier, eh bien, ils ouvrent la voie à d'autres qui peut-être n'osaient pas en parler, ne serait-ce qu'à leur conjoint ou leurs enfants. Ou... Alors j'espère que le film a servi à ça, vraiment.
On a peu d'assurance sur ce qu'elle dit. Donc c'est seulement au moment où ça arrive ou au moment où on a eu un écho de ce qui s'est passé que c'est très surprenant et puis qu'évidemment on prend la personne en considération.
Si vous deviez faire là demain un nouveau documentaire sur le sujet des expériences de mort imminente, vous choisiriez quel angle d'attaque, quel thème cette fois-ci?
Je pense que je l'associerais aux expériences de sortie du corps, au OBE, Out of Body Experience, à savoir voyage astral, sortie du corps volontaire, de façon à aller plus loin dans l'exploration du phénomène. Et ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment sont les expériences faites en laboratoire où on demande à quelqu'un qui a l'habitude de faire du voyage astral de sortir de son corps et d'aller voir un numéro à 4 ou 5 chiffres collé au plafond, mais écrit tout petit. Ça veut dire un numéro qu'il ne pourrait pas voir avec ses yeux depuis son corps. Donc ça veut dire que forcément, s'il arrive à rapporter ce numéro juste, c'est qu'il a pu délocaliser sa conscience. Alors ça, ce sont des expériences qui sont faites. Ça m'intéresserait beaucoup d'en filmer. Alors je pense que j'irais plutôt dans ce sens-là.
On aurait dit que c'était comme si on n'éprouvait plus la peur. Comme si on était déjà crevé. Et qu'on n'ait rien à perdre en mourant encore.
Vous, d'avoir fait un documentaire sur les NDE, est-ce que cela vous a aussi transformé quelque part?
Oui, parce que j'étais quelqu'un d'assez sceptique. Ouais, assez cartésienne, sceptique, alors curieuse et très ouverte, hein, tout ce qui était phénomène paranormal. Mais vraiment, j'ai abordé le film en me disant, c'est bizarre quand même ce truc-là, ça doit être une hallucination. Et j'en suis ressortie avec la conviction que non, c'était pas des hallucinations, qu'il se passait bel et bien quelque chose d'important, puisqu'ils en étaient psychologiquement transformés. Une hallucination ne transforme pas les gens de cette façon-là. Donc oui, bien sûr, ça m'a changé. Oui.
Ou il est possible que ce soit parce qu'on avait tellement profité de la vie et qu'on l'ait tellement aimé qu'on s'imaginait être immortel et pouvoir vaincre la puissance divine par la force de notre passion pour la science.
Bizarre.
Très bizarre.
No.
sommes tous responsables de sa mort. Nous l'avons même sans doute mérité.
Non, non, c'est injuste et c'est anormal. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir violé ta saloperie de territoire. Je te demande pardon. Ça te suffit pas.
Une expérience de ND, ça bouleverse énormément, quoi, en fait. Il y a une nouvelle approche par rapport à la spiritualité, par rapport à toutes les religions aussi. Je fais un amalgame, je dirais, de plusieurs religions, en fait, actuellement, quoi. Mais je suis revenu sur ma religion principale, qui est le catholicisme. Pour moi, c'est indéniable qu'il y a quelque chose après, quoi. Donc, je crois, en fait, j'ai la foi dans l'au-delà. J'ai la foi de la vie après la vie. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi dans les puissances divines. Pour moi, c'est plus qu'une certitude, quoi. C'est un vécu.
En interview cette semaine, Denise Gillian, la réalisatrice du documentaire Article 43, sorti en 2008, mais aussi du documentaire récemment réédité en DVD, Aux frontières de la mort, un film diffusé en 2002 dans l'émission Temps présent.
D'un côté, on a les témoins qui en sont totalement convaincus parce qu'ils l'ont ressenti comme ça, parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas pu voir depuis leur corps physique. Donc pour eux, la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais celui-ci est une sorte de récepteur pour quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Et puis, d'un autre côté, on a la majorité des scientifiques pour qui ceci est totalement impossible parce que c'est l'activité des neurones qui produit la conscience. Pour prendre une image, la conscience serait en quelque sorte sécrétée par le cerveau, un peu comme la bile est sécrétée par le foie. Donc, le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête aussi.
Un film qui a sûrement donné à Denise Gillian l'envie d'approcher à nouveau cette année le monde de l'invisible et de l'extraordinaire dans un autre documentaire. Date de sortie prévue, septembre 2011.
Alors c'est un documentaire sur la médiumnité où j'ai choisi de mettre à l'épreuve en direct devant la caméra une médium qui fait des contacts avec des défunts à des personnes qui n'y croient pas, les yeux bandés. On suit cette expérience-là en direct. Ça m'intéressait de voir non seulement comment une séance de médiumnité se déroule, comment elle se donne, quels mots utilise la médium, quel impact ça peut avoir de nouveau dans la vie de la personne qui reçoit, et puis que ce soit fait d'une façon, je dirais, formelle, incontestable, à savoir qu'on puisse pas se dire qu'elle a pu obtenir des informations par ailleurs, que de toute façon ils étaient parties prenantes. Donc il y a un processus filmique qui est mis en place qui, normalement, devrait sécuriser le spectateur sur le fait qu'il n'y a pas de truc. Donc ça, c'est le parti pris du film.
Donc un documentaire sur les médiums et la médiumnité qui va sortir dans quelques mois, et puis un documentaire sorti en 2002 sur les NDE. Voilà deux documentaires pour approcher l'extraordinaire et qui ont des dénominateurs communs dans la mesure où certaines personnes qui vivent une expérience aux frontières de la mort reviennent avec ce qu'on pourrait appeler des dons et des capacités médiumniques tout à fait intéressantes. Il y a d'ailleurs le témoignage de Sophie, par exemple, dans la partie bonus, qui est tout à fait stupéfiante.
Oui, alors c'est vrai que ça, c'est aussi une constante. C'est comme si les expériences de mort imminente ouvraient une porte. Alors, je ne sais pas si c'est une porte physique à l'intérieur du cerveau ou si c'est simplement de l'ordre de la conscience. Le fait qu'on se dise, ben oui, ça doit être possible qu'il existe une autre dimension qui fait qu'on s'ouvre et du coup on devient plus réceptif, je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon nombre d'expérienceurs témoignent ensuite d'expériences de clairvoyance, de prémonition. Nicolas a pu éviter un accident de voiture parce qu'il a reçu l'image de l'heure et de la voiture qu'il allait emboutir. Donc oui, c'est une constante, effectivement, dans la vie de ces personnes-là. Est-ce que c'est un cadeau de l'au-delà quand on fait une ND en compensation, ou est-ce que c'est un phénomène psychologique de lâcher prise, justement, qui leur permet d'accéder à des dimensions qu'on a tous, mais qu'on ne développe pas? C'est plutôt ça que je crois, moi. C'est que des aptitudes que tout le monde a, mais dans nos cultures, qu'on n'a pas l'habitude de développer.
Une fois, l'ange m'a dit à l'oreille, prépare-toi, tu vas recevoir un cadeau. Quelqu'un d'en haut t'offre un cadeau. J'étais très étonnée, assez intriguée, j'avais un petit peu peur, à vrai dire. Et il m'a dit, détends-toi, tu vas recevoir un très très beau cadeau, c'est un bain d'amour. Et là, tout d'un coup, j'ai senti mon corps entrer dans une espèce de vibration. Toutes mes cellules, j'avais une sorte de prise de conscience de toutes mes cellules de mon corps. C'est comme si elle se mettait à vibrer, à émettre une lumière bleutée, comme ça, blanche. C'est difficile de dire même la couleur. C'était tellement blanc que c'est presque plus une couleur ou un ensemble de couleurs. Ça m'a beaucoup amusée sur le moment. Je disais, mais Sophie, t'es vraiment folle. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça doit être complètement imaginaire. Alors j'essayais de capter un maximum d'éléments, de vraiment voir si j'étais bien réveillée, de comprendre ce qui m'arrivait. Et régulièrement, la voix de l'ange me disait, détends-toi, Sophie, profite de ce moment. C'est vraiment un cadeau. C'est un bain d'amour. Et j'ai flotté un petit peu comme ça dans cette sensation, avec une sorte de conscience, comme une conscience universelle, comme si à ce moment-là, on peut à peine poser une question qu'on a déjà la réponse.
Club bizarre.
Il est très stable, mais il parle comme Lazare revenu du royaume des morts.
Mais c'est ce qu'on a réussi à faire. On l'a ramené du royaume des morts.
Ce qu'on a fait, c'est avoir du bol.
J'aimerais être la suivante.
Pas question.
Moi aussi.
Non, sérieux? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tous le droit de devenir célèbre?
Conclure une thématique sur les expériences de mort imminente, c'est souvent avoir plus de questions que de réponses. Des questions sur l'au-delà, sur Dieu, les anges, le paradis et surtout la vie après la vie. Mais aussi sur les réincarnations, un sujet passionnant et tout aussi déroutant que les NDE. Un sujet que nous aborderons dans une thématique en trois volets dès le dimanche 6 juin dans cette émission avec en invité la médium française Pascale Lafargue. Voici un extrait.
Enfin, si éventuellement la notion de la réincarnation pouvait exister, j'avais quand même en idée que on n'arrivait pas dans une vie par hasard, on n'avait pas telles envies par hasard, il nous arrivait certaines épreuves, c'était pas par hasard, enfin bref, en règle générale, il me trouvait inconcevable que l'on pouvait se lever, manger, aller travailler, tout ça, se coucher le soir, et qu'en fin de compte, voilà, qu'on venait uniquement sur Terre pour ça. Non, pour moi, il y avait un sens beaucoup plus profond.
Et c'est ici que notre aventure aux frontières de la mort prend fin. Merci à Denise Gillian pour son témoignage, à Franck Pourpri pour la réalisation. Il y avait des extraits dans cette émission du documentaire « Aux frontières de la mort » coproduit par la télévision suisse romande. Pour obtenir une copie au format DVD, un lien est disponible sur couleur3.ch, rubrique émission Club Bizarre. Un autre vous permettra d'accéder à notre chaîne de podcast Vraiment Bizarre et donc d'écouter à nouveau cette émission dans son intégralité. À bientôt et belle soirée.
Le jeune docteur Dave croit avoir la réponse à nos problèmes de karma. Dans l'expiation de nos fautes.